Religion du monde. Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La mémoire des martyrs du communisme en Roumanie, honorée ce matin avec la béatification à Blache par le pape François de cet évêque gréco-catholique mort en prison et dans des camps entre 1950 et 1970. Le pape François qui regagnera Rome ce soir au terme de ce voyage de 3 jours en terre orthodoxe. Au menu de Religion du Monde également, le mois du Ramadan qui touche à sa fin. Et à cette occasion, Mourad Latrèche, cofondateur de Saphir News, nous présente la série de vidéos pédagogiques sur l'islam intitulée La Casa del Hikma, lancée par le quotidien en ligne au début du Ramadan. Et puis Mehdi Hazar, artiste plasticien, vient nous parler de son premier roman, publié aux éditions Ligne de Vie et qui s'intitule précisément Ramadan. Ils sont 7. 7 évêques roumains morts de faim, comme Mgr Suciu en 1953, de froid, de maladie, de travaux forcés ou sous la torture, comme Mgr Vasile Afteni, mort le 10 mai 1950 au ministère de l'Intérieur, qui vont être béatifiés ce matin lors d'une grande cérémonie. Le père Christian Krishan, en charge de la paroisse gréco-catholique roumaine de Paris et recteur de la mission gréco-catholique roumaine en France, revient sur l'histoire des persécutions religieuses en Roumanie.
En 1948, avec l'arrivée au pouvoir du communisme, le 1er décembre, un décret de la part de l'État communiste a déclaré que cette église n'existait plus et qu'elle a été réunifiée avec l'église orthodoxe romaine. Pratiquement, avec cet acte, l'État roumain avait copié exactement ce qui s'était passé 2 ans avant, en 1946, en Ukraine, lorsque, par volonté expresse de Staline, l'église gréco-catholique ukrainienne et ensuite roumaine ont dû être décapitées, ont dû être anéanties. Devant une campagne très forte, dénigratoire contre l'église et contre le pape, voilà, vu comme un pouvoir impérialiste, les évêques et beaucoup de clergés et de fidèles se sont opposés et tous les évêques ont été mis en prison parce qu'ils n'ont pas accepté ce compromis avec l'État. Nos évêques, malgré les pressions qu'ils ont et des vexations qu'ils ont subies dans les différentes prisons, aucun d'entre eux n'a pas cédé devant les pressions et les menaces de mort. En fait, en 1952, le pape Pie XII envoie une lettre apostolique, Veritatem facientes, la vérité vous rendra libre, dans laquelle le pape de Rome dit, je voudrais embrasser le chêne avec lequel l'église gréco-catholique de Roumanie est enchaînée. Donc c'est une façon de dire, nous à Rome, on pense à vous, on est reconnaissant pour le sacrifice que vous faites et pour votre fidélité au Christ et à l'Église catholique.
Vous parlez, Père Krishan, de vexation, de pression, mais il y a eu des tortures très lourdes dans ces prisons roumaines.
Il y a eu des tortures très lourdes et c'est très significatif que le premier de ces sept martyrs, Mgr Vasile Afteni, le premier évêque gréco-catholique de Bucarest, a été torturé dans le siège du ministère de l'Intérieur de Bucarest. C'est le premier qui a décédé. Et en fait, après les examens de ses ossements, on a bien compris qu'on lui a arraché la main, pratiquement avant de le tuer. Ensuite, d'autres martyrs, d'autres évêques sont morts de faim ou bien à cause de la manque de soins médicaux. Dans des prisons, dans des goulags, on peut dire, par exemple, la prison de Siget, il n'y avait pas de chauffage, il y avait la nourriture, c'était une catastrophe. Et donc, ils sont décédés dans des conditions vraiment humiliantes et très, très dures.
Alors, la personnalité la plus emblématique, si on peut créer une hiérarchie dans ce genre de situation, c'est Mgr Suciu, c'est cela ?
Voilà, Monseigneur Soo Chew, c'est une, on l'appelait la, l'apôtre des jeunes, ou bien l'évêque un des plus charismatiques que notre Église a jamais eu. Il était né à Blaj, là où le pape ira pour célébrer cette béatification en Transylvanie, voilà, dans une petite ville qui a 20 000 habitants et qui attend maintenant 100 000 pèlerins pour la visite papale. Et lorsqu'il était jeune prêtre et ensuite jeune évêque, il menait une activité pastorale, et c'est assez significatif, avec la communauté rom, avec les roms qui vivaient, qui vit toujours dans cette ville de Blaj, et qui faisait du catéchisme avec eux, qui avait de l'accueil et jouait du football, bien sûr, avec les roms. Et c'est assez significatif parce que le pape rencontrera cet après-midi même, cette communauté rom dans ce quartier rom à Blaj, où a été construite une église pour eux, un centre culturel et spirituel. Et cette église est dédiée justement à Saint André, qui est l'apôtre qui a évangélisé la Roumanie selon la tradition, et au bienheureux Ioan Soo Chew, justement cet évêque qui a eu cette sensibilité et cette approche tellement amicale et pastorale envers cette population rom qu'il a toujours vu comme avec un grand potentiel.
Alors, quelles sont les séquelles, j'allais dire, de cette tragique période quant aux relations entre les orthodoxes et les gréco-catholiques? Les gréco-catholiques qui n'ont pas retrouvé bon nombre des églises qui leur ont été confisquées au profit de l'église orthodoxe.
Mais il faut dire que l'Église orthodoxe a eu aussi énormément de martyrs et que cette persécution nous a vraiment unis. Il y a vraiment des cas, des témoignages très très forts avec des moments et des contacts d'amitié et fraternels très forts, là justement dans les cellules. Et là on se rendait compte que la foi ne peut que nous unir. Le problème, en fait, c'était après la chute du régime communiste, lorsque cette question patrimoniale est sortie, et on s'est rendu compte que finalement, toute la documentation de la cause de béatification de nos martyrs est très claire là-dessus. C'était pas l'Église orthodoxe qui a décidé ou qui a œuvré la décapitation de notre Église gréco-catholique, mais c'était justement l'État communiste qui a instrumentalisé l'Église orthodoxe, et fort probablement les buts étaient très clairs, celui de créer entre le Roumain, de créer de la division. Voilà, donc c'était ça le but, parce que c'est classique, divide et impera. Voilà, lorsque on n'est pas uni, on n'est pas fort et on est contrôlable. Et si c'était quelque chose qui dérangeait justement l'État communiste dans cette Église gréco-catholique, c'est ce contact avec l'Occident. Voilà, on était toujours vu comme les espions du Vatican, de l'Occident, donc il fallait disparaître. Pourquoi? Parce que le contact avec tout ce qui est occidental portait une grande libération, la culture, les lumières sont arrivées en Roumanie à travers cette Église gréco-catholique. Et donc, lorsque l'homme est libre, il ne peut pas être contrôlé. Et c'est ça qui dérangeait beaucoup le système communiste. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu contrôler les églises en tant que danger pour eux dans la création et fabrication de ce que le communiste appelait l'homme nouveau. Maintenant, il y a le rapport écuménique sont beaucoup, beaucoup améliorés, même s'il y a eu de tensions justement après la chute du régime en 89. Il y a des dialogues, il y a des moments de partage et des communions fraternelles. Surtout que, par exemple, en France et en diaspora, il y a une grande présence orthodoxe de fidèles roumains qui sont venus pour travailler en France et dans toute l'Europe, et qui ont trouvé un grand accueil dans les églises et dans les communautés catholiques.
Le danger pour l'église gréco-catholique roumaine, et puis même pour l'église orthodoxe tout court et pour la Roumanie plus largement, est-ce que ça n'est pas précisément une grande perte, tous ces jeunes qui partent en Europe, en France, etc. et ailleurs?
Donc nous, les gréco-catholiques, les catholiques, les orthodoxes, pratiquement on se rend compte maintenant qu'on a un ennemi commun. Et l'ennemi commun aujourd'hui, en fait, on a un ennemi avec trois visages, si vous voulez. Le premier, c'est justement la sécularisation qui est arrivée très rapidement en Roumanie aussi. Et en fait, on parle justement d'une double sécularisation parce qu'on se sécularise en étant déjà sécularisé après 40 ans de désert, on peut dire, au niveau des valeurs qui ont été inculquées aux jeunes générations. Et le deuxième, c'est le vieillissement de la population. Donc ça, on assiste à une chute de naissance. Voilà, donc c'est une société qui est toujours plus âgée. Et le troisième, c'est justement ce départ, ces vagues de jeunes qui remplissent un peu l'Europe, voilà. Pour lequel, voilà, c'est vrai que la Roumanie reste leur patrie, leur foyer, mais un peu le pays des vacances. Voilà, donc tout cela nous interpelle, comment on peut accompagner et comment aider ces gens à rester fidèles et à avoir ce contact avec leur pays mère.
Et à rester sur place aussi.
Et à rester sur place, bien que y a pas mal d'entre eux qui espèrent, voilà, un développement économique ou bien à avoir des conditions de vie et de travail un peu comparables avec ceux qu'ils ont trouvé en Occident, afin qu'ils puissent retourner.
Le salaire moyen en Roumanie?
Le salaire moyen, c'est à peu près 400 euros.
La question rome, comment l'Église gréco-catholique, comment l'Église orthodoxe aussi, envisage-t-elle cette question?
Donc, le pape François, justement cet après-midi, va rencontrer cette communauté rome dans le quartier qui s'appelle Barbu Lautar ou Ablage, parce que le pape veut donner un message. Un message d'abord à la Roumanie qui dit, voilà, vous avez cette population, est-ce que vous avez pris toutes les mesures au niveau social, au niveau éducatif, d'intégration pour cette population? Apparemment non, donc là aussi nous avons en tant que Roumains beaucoup à apprendre, beaucoup à récupérer. En même temps, le pape veut donner ce message clair en disant, alors en Roumanie il y a une petite église, on est entre 1 et 2%, donc on n'est pas très nombreux, les gréco-catholiques, mais quand même on a une pastorale dédiée à cette population rome. On a des prêtres roms, on a des églises dédiées à eux, on a une catéchèse qui est un peu adaptée à leurs exigences, à leurs sensibilités. Et justement aujourd'hui, cet après-midi, le pape rencontrera cette peuple tel qu'il est. Il l'a fait déjà à plusieurs reprises à Rome, il y a eu de grands rassemblements de Rome. Le message, c'est de dire, voilà, vous êtes dans la périphérie des périphéries, dans la périphérie existentielle de la Roumanie et de toute société, mais vous êtes important pour l'Église. Et là, l'Église a une parole pour vous et vous avez une place dans l'Église parce que dans l'Église, il y a de la place pour tous.
Vous, ici à Paris, mon père, donc vous êtes à la tête de la mission gréco-catholique roumaine, vous avez des Roms qui viennent dans votre paroisse, donc dans le 16e arrondissement?
On a des Roms qui fréquentent notre paroisse et on a des Roms que nous-mêmes, nous allons les rencontrer, les visiter dans les périphéries de Paris. On a fait à plusieurs reprises des visites chez eux, des bénédictions de maison. On a fait, par exemple, une prière sur le tombeau d'un petit garçon qui a été tué dans un accident. Et moi-même, les premières obsèques que je fais en tant que prêtre, j'étais en Italie, à Rome, et je les ai fait dans un camp de Rome, et là où il y avait toujours des obsèques d'un enfant de 2 semaines qui était décédé. Et c'était très, très touchant de voir cette communauté priante, voilà, qui était rassemblée autour de cette famille qui était très jeune, voilà, pour les soutenir et pour prier avec eux et pour montrer leur affection et leur bienveillance.
Comment envisager la sortie de la pauvreté des Roms en Roumanie? Est-ce que ça tient au gouvernement, aux autorités, qui les placent dans une relégation, en quelque sorte, dans un isolement, ou bien est-ce que ça tient aussi à leur attitude, au fait qu'ils restent repliés sur eux?
Moi, je pense que le plus grand problème que nous avons en Roumanie pour la population rome, c'est au niveau éducatif, de savoir trouver un langage commun de savoir attirer leur et stimuler leur intérêt afin qu'ils puissent se suivre des écoles, puissent être trouver une place dans la société. La société évolue. Et si eux aussi continuent à rester ghettisés dans leur propre monde, voilà, ils n'arrivent pas ensuite à trouver et à entrer au niveau public. Il y a des cas et des exceptions heureuses, voilà, où on voit bien comment les autorités ont pu intégrer les Roms dans les usines ou bien au niveau de la les différents services sociaux, là où s'ils veulent recevoir des aides sociaux, ils doivent s'engager, ils doivent faire quelque chose pour la communauté. Et je pense que c'est sur ce domaine-là que l'Église peut œuvrer, peut entrer en contact avec eux et surtout avec les nouvelles générations de jeunes Roms qui ont un grand potentiel et qui peuvent porter beaucoup, même à la Roumanie.
Et qui veulent une rupture par rapport aux aînés.
Qui veulent une rupture et un renouvellement par rapport au passé, oui.
Le père Christian Krishan, recteur de la mission gréco-catholique roumaine en France.
Tu dis ça, toi ?
Oui, pourquoi ?
Tu savais que Nietzsche était contre les religions ? Il a même dit que Dieu est mort.
Oui, je sais, et alors ? Il a aussi dit que les certitudes rendent fous.
Attends, mais tu ne te serais pas un peu égaré, toi ? Mais la certitude, c'est la base de la foi, quand même.
La Casa del Hikma, c'est le nom donné à la série de petites vidéos pédagogiques lancées par Saphir News, le quotidien en ligne du fait musulman. La Casa del Hikma, maison de la sagesse, comme l'a expliqué Anan Benrouma, rédactrice en chef de Saphir News à l'occasion du lancement au début du Ramadan, s'adresse aux 16-35 ans, aux musulmans mais aussi aux non-musulmans. Le but, déconstruire les idées reçues et les préjugés grâce à la connaissance et à la clarification de mots et de concepts au sein de l'islam. Avec nous dans ce studio, Mourad Latrège, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Saphir News et pendant un an, vous avez travaillé à la conception et à la réalisation de cette série originale. Alors, sur la conception, chaque vidéo qui fait autour de 4 minutes s'ouvre avec un dessin animé sur un échange entre deux personnes autour d'un mot puis suit l'explication d'un spécialiste comme l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, ou l'islamologue Éric Geoffroy ou encore Raleigh Bencher. Mais la vidéo a d'abord commencé par de la musique, une musique très enlevée, très rythmée, qui parle aux jeunes, Mourad Latrège.
Tout à fait, donc la cible était quand même jeune, donc forcément on a dû utiliser les codes justement que les jeunes comprennent et qu'ils puissent les toucher, donc effectivement la musique fait partie justement des recettes qu'il faut absolument intégrer dans ce genre de production, mais il s'agissait surtout de trouver le mode d'approche pour pouvoir toucher les jeunes. Et c'est là la difficulté quand on veut faire de la pédagogie, c'est de trouver le bon concept.
Alors trouver le bon concept, il y a la réponse du spécialiste sur telle ou telle question et on va l'entendre, on va entendre là justement sur le doute Raleigh Bencher, hein, président quand même de la Fondation de l'Islam de France, islamologue, qui va répondre à cette question du doute, alors qui est un des thèmes, des nombreux thèmes développés dans cette série. Donc cette série commençait au début du Ramadan. On écoute Raleigh Bencher.
Seules les certitudes rendent fou. C'est normal que le doute soit inhérent à la foi. On ne peut pas croire comme ça d'une manière certaine. Ça relève du dogmatisme. Il y a un apaisement lorsqu'il y a ce va-et-vient entre le doute et la foi.
Oui, mais à trop se poser de questions, on finit par se perdre.
Il ne faut pas avoir peur du doute, il ne faut pas paniquer. Au contraire, il renforce davantage la foi. Il y a une dialectique entre la foi et le doute, et c'est comme ça qu'elle se renforce. Le fait d'exercer son entendement, son intelligence pour discerner, comprendre, admettre ou pas telle ou telle proposition imputé à la tradition religieuse est relatif à la dignité de l'homme. N'avons-nous pas lu dans le Coran les nombreuses injonctions qui demandent à exercer la raison, à réfléchir, à méditer ? Ceci est nécessaire pour avoir une conscience intelligente dans sa relation à Dieu parce que, selon encore une fois une autre maxime, la foi est toujours en quête d'intelligence.
Ouais, mais justement, ton Nietzsche, il n'est pas devenu fou à force de réfléchir ?
Non, mais à mon avis, il devait avoir beaucoup de certitudes.
Non, mais sérieusement, le doute, c'est pas l'œuvre du diable ?
Alors, vous étiez donc parti d'une conversation entre un garçon et une fille, tout à fait moderne. La fille est dans le métro, elle lit Nietzsche, et c'est de là que part cet échange avec ce garçon. Ça, c'est une bonne recette, ça.
Oui, tout à fait. Donc, il fallait aussi évoquer les références qui sont les nôtres, pour les Français de confession musulmane. Et donc, effectivement, faire appel à Nietzsche était tout naturellement trouvé pour justement questionner la relation avec la foi et la spiritualité. Et donc, c'est aussi de répondre à une idée reçue, donc que le doute ne ferait pas partie de la foi, car c'est justement les extrémistes qu'ils évoquent comme étant la religion de la certitude, et donc ils laissent aucune place à la complexité, au doute, et il a fallu répondre à cette problématique-là, d'où ce scénario justement qui met en évidence cette idée reçue.
Bien sûr, l'idée de fond, c'est combattre l'extrémisme par la connaissance.
Tout à fait.
Combattre l'extrémisme par la connaissance, d'où l'intitulé de cette série, La Maison, la Casa d'Elikma. Donc, ça rappelle la grande maison de la sagesse à Bagdad, sous les Abbassides.
Exactement. Donc, effectivement, nous avions un peu identifié ce manque de connaissances à travers cette institution qui a marqué l'âge d'or de la civilisation islamique. Et notamment, on a fait référence à Dar al-Hikma en arabe, qui veut dire justement la maison de la sagesse. Et celle qui a symbolisé cette institution, c'est celle qui a été effectivement implantée à Bagdad sous l'ère des Abbassides. Et donc, effectivement, c'était un lieu où on échangeait sur les connaissances, non pas religieux et théologiques, mais l'ensemble des connaissances.
Philosophiques, scientifiques.
Exactement. Ouais. Et donc, pour nous, c'était important de symboliser notre démarche dans ce cadre-là, car il est question justement d'évoquer l'ensemble des sujets que peut toucher notre société d'une manière large, et éventuellement celle qui touche particulièrement les musulmans. Et donc là, on s'inscrit complètement dans cette démarche qui était la maison de la sagesse, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir au débat de société.
C'est pour ça que j'ai commencé par le doute, qui n'est pas la première vidéo diffusée, mais je trouve que le doute, ça donnait bien l'esprit, effectivement, de cette série, La Casa d'Elikma. Alors, on continue avec le soufisme, qui a été dans les toutes premières. On écoute un extrait.
Ouais, t'as vu ? Ça a l'air pas mal, ça.
Mais t'es fou, c'est un truc de soufi, ça. C'est une secte. C'est une secte inventée par les Américains pour détourner les musulmans de l'islam. T'as pas vu comment ils dansent ? Ils vont planer sur de la musique haram.
Mais regarde, ça parle de spiritualité.
Vas-y toi si tu veux, mais moi je suis pas dispo.
Ah oui ? T'as quoi ?
Un concert de PNL.
Ah oui, donc tu vas planer quoi.
Le soufisme est la dimension spirituel intérieur de l'islam sunnite, pour des raisons à la fois de doctrine, mais des raisons historiques.
Alors là, Mourad Latrèche, on a la réponse avec un islamologue et un grand soufi.
Alors justement, la difficulté était de pouvoir mixer le sérieux des contributeurs, donc des intervenants spécialistes sur leur sujet, et en même temps être léger sur la formulation de la problématique qui est justement traitée. Donc d'où le mixte entre les animations très ludiques, très dans l'humour, et puis là on a une réponse plutôt sérieuse sur le thème évoqué.
Il y a eu quand même un certain montage, j'imagine, parce que ce ne sont pas des spécialistes quand même de la, je dirais, des explications en raccourci.
Non, effectivement, la pédagogie n'est pas forcément leur fort. Donc, effectivement, ils ont fait un effort assez important pour justement arriver à être pédagogue dans leur explication, dans la réponse aussi. Nous avons accompagné ces intervenants pour qu'ils puissent répondre précisément à des idées reçues. Et donc là, il y a eu un effort effectivement de leur part pour être dans la pédagogie.
Alors, parmi les déconstructions à faire, ou en tout cas les explications à donner, bien sûr, le djihad.
Le djihad, étymologiquement parlant, signifie l'effort, quel que soit le domaine. Il peut signifier également un effort physique pour se défendre. Et là, on n'est plus dans le djihad dans le sens spirituel et moral et intellectuel, mais dans la notion défensive. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait à ses compagnons, ne souhaitez pas la confrontation de l'ennemi. L'islam n'est pas une religion belliqueuse, au contraire, il faut éviter la confrontation. Et donc, il s'agit plutôt de se défendre quand la guerre s'impose, abstraction faite de la religion de l'autre. La ikra fi din, point de contrainte en matière de religion. Donc, il ne s'agit pas de mener une guerre qui serait sainte, alors qu'il n'y a pas de guerre sainte, il y a tout simplement une guerre juste ou une guerre injuste.
Bon, là, vous êtes en train de dissimuler des passages du Coran qui appellent au combat.
Le Coran, quand il parle de combattre les kofars, c'est-à-dire les mécréants ou les incroyants, c'est parce qu'ils étaient hostiles, tout simplement. La preuve, c'est que les chrétiens, les juifs, ils ont un statut de protégés. Même les païens qui ne déclarent pas la guerre, ils peuvent avoir le statut de protégés, de dhimmi. Donc il ne s'agit pas de combattre les gens à cause de leur religion.
Et pourtant, regardez tous les territoires conquis par les musulmans.
Alors, on aura la réponse, Mourad Latrèche, plus loin, en écoutant. Tous ces sujets, quand même, portent à débat. Hein, ce sont des sujets délicats, très compliqués à traiter sur quelques minutes.
Effectivement, ce sont des sujets complexes, mais c'est aussi des sujets qui touchent l'ensemble de la société française et occidentale d'une manière plus large, parce que malheureusement, ils font référence à des événements tragiques qui ont touché énormément de personnes et qui, donc, du coup, questionnent. Et on s'est rendu compte que, finalement, même les musulmans qui ont une vision plutôt apaisée de leur religion, eux-mêmes ne maîtrisent pas ces fondamentaux-là. Et donc, il était important pour nous de revenir en même temps pour expliquer à l'ensemble de la société, mais aussi aux musulmans, pour leur donner des armes, d'explications, et quand ils sont justement dans des discussions avec des amis, en famille. Et là, il a fallu faire appel à des spécialistes pour justement expliquer, alors je dirais pas en profondeur, parce qu'on peut pas le faire en 4 minutes 30, mais en même temps, évoquer les arguments nécessaires pour pouvoir engager un débat.
Même chose pour, par exemple, le califat cette semaine.
Tout à fait. Donc, un autre sujet aussi assez
bien
complexe.
Chaud, oui.
Effectivement. Mais là, encore une fois, souvent, en fait, les spécialistes reviennent à la source pour éventuellement mettre en évidence la complexité, parce qu'il ne s'agissait pas de donner une seule réponse ou une seule définition, mais d'évoquer la complexité de ces termes et donc de commencer à répondre aux questionnements qui nous sont posés.
Alors, donc la Casa dell'Hikma a manifestement un bel avenir, semble-t-il, parce que ça ne s'arrête pas là, ça ne va pas s'arrêter avec la fin du Ramadan.
Pas du tout, ça continue. Donc, juste pour rappeler, la Casa dell'Hikma fait référence effectivement à la Maison de la Sagesse dans son contenu, mais on a voulu quand même mettre un petit clin d'œil à la Casa de Papel, qui a une série qui a beaucoup fonctionné, qui touche énormément les jeunes. Et donc, effectivement, on espère que cette série continuera et qui aura le même succès que Casa de Papel.
Donc un bel avenir à la Casa dell'Hikma, donc à retrouver sur le site safirnews.com. Merci Mourad Latrèche
d'être venu
nous expliquer ce beau projet, cette belle réalisation.
Merci à vous.
Religion du monde. Geneviève Delru.
Le mois du Ramadan arrive à sa fin. Ramadan, précisément, c'est le titre du livre de notre invité Mehdi Azar, publié aux éditions Ligne de Vie. Bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Et merci d'être venu. Alors, Mehdi Azar, vous êtes artiste, plasticien, vous signez là votre premier roman. Et à travers donc ces ramadans successifs, vous allez raconter l'histoire d'un jeune garçon, Ali, d'origine marocaine, enfin il est franco-marocain. Vous allez raconter la façon dont il va vivre ce ramadan au fil des années. Ce livre, vous l'avez écrit en 2005, il ne paraît qu'aujourd'hui. Pourquoi ?
C'est très sensible, les débats identitaires. On a vu, en fait, il y a eu beaucoup d'incidents dramatiques. Et peut-être que les maisons d'édition n'ont pas envie de prendre tous ces risques. Sûrement, elles étaient d'accord avec mon propos, mais peut-être que c'était trop d'enjeux et de risques à prendre pour un roman.
Votre propos n'est pas militant en même temps, c'est le regard d'un jeune garçon sur le Ramadan, tel qu'il le vit, de l'intérieur, dans son village de Normandie où il habite, avec ses parents.
Exactement. Alors, c'est inspiré très fortement de mon histoire, et en même temps mon histoire elle est très ordinaire, hein. C'est je vous le disais hors antenne, c'est l'histoire d'une génération de maghrébins venus vivre et travailler en France, et sous les mandats de Mitterrand puis de Jacques Chirac, donc ça dure 25 ans, c'est l'histoire de cette génération-là, avec les parents qui sont venus travailler dans les mêmes usines, les enfants qui avaient regardé la même télévision, avec...
Les mêmes séries, hein, vous serez ça.
Oui, c'est ça.
C'est très présent dans le livre.
Oui, c'est ouais. ça, c'est les mêmes séries. Il y avait beaucoup moins d'offres à cette époque-là. Et il y avait un rapport surtout à la religion qui était vraiment du cadre familial, qui occupait très peu l'espace public, et ni même dans les médias.
Vos parents font le ramadan, mais ce sont pas non plus des accros.
Voilà, c'est ça.
Enfin, vos parents, les parents d'Ali, hein.
Oui, oui. Ma mère a toujours été un peu plus pieuse que mon père. Mon père était toujours un peu à la traîne. C'est ma mère qui allait le chercher en lui disant « N'oublie pas ta prière, n'oublie pas d'aller à la mosquée ». Il était un peu dilettant, hein, mon père, hein, par rapport à la religion. Et ça, c'est très courant, hein, c'est très récurrent, hein. C'est plutôt ces dernières années où j'ai vu une rigueur dans la pratique et dans l'exemple à montrer aux proches et aux enfants. Mais concernant mes parents, ils étaient quand même très, on va dire, très cool, si je peux me permettre cette expression.
Alors, tout se déroule, enfin la grande partie de ce roman, de ces chroniques, hein, se déroule en Normandie. Le père d'Ali donc est venu du Maroc pour travailler dans une usine. Il est métallo, comment peut-on dire,
non, ouvrier polyvalent.
Ouvrier polyvalent.
C'est ça.
Ce village n'a rien de franchement bucolique. Ce sont des maisons, mais des maisons HLM où il fait froid. D'ailleurs, tout le temps froid. Vous décrivez ce froid.
Exactement. Oui.
Parce que je ne sais pas, avec l'office des HLM, ça marche pas bien. Mais vous avez toujours froid dans ce.
Ah, c'était récurrent. Je crois que ils ont commencé à installer l'isolation quand on a quitté la maison, en fait, hein, après 15 ans de réclamations et de contestations. Mais c'est révélateur aussi d'une époque, en fait, où oui. Les maisons étaient finalement très mal isolées.
Alors, il y a une mosquée quand même dans une des maisons,
oui.
Dans un des pavillons, mais une mosquée, bon, un peu fabriquée quand même, voilà. pas la mosquée classique.
Hein. Non, c'était une mosquée improvisée avec les moyens du bord. C'était le séjour d'une des maisons qui avait été aménagée en mosquée, c'est-à-dire qu'on avait déroulé des tapis et puis on avait accroché quelques calligraphies, posters au mur et puis 2-3 étagères avec quelques exemplaires du Coran à disposition des fidèles.
Vous êtes très sensible à l'ameublement. Peut-être parce que vous êtes artiste aujourd'hui, vous décrivez un univers très très similaire, hein, d'une maison à une autre, et une façon de vivre d'ailleurs très similaire. Tout le monde va au Leclerc local, hein, s'approvisionner. Les meubles sont les mêmes, c'est souvent du formica. C'est un univers effectivement un peu triste, faut bien le dire. Hein.
Oui, c'est pauvre tant physiquement que en offre de possibilités.
Il n'y a pas de livres aussi.
Oui, deux livres, l'annuaire. Enfin, le bottin téléphonique et le Coran. Donc, il a fallu attendre le collège et même le lycée pour découvrir le CDI avec les possibilités de lecture différentes. Alors, ça peut paraître caricatural, mais c'est comme ça que ça se passe, hein, malheureusement. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème. C'est le champ, l'horizon est restreint. Et c'est aussi ce que conteste. Le héros, le personnage.
Très fortement. Il est quand même assez révolté dès le début. D'ailleurs, il parle de façon assez abrupte, votre héros, hein, votre Ali.
Exactement. Quand vous n'avez pas les réponses à vos questions et que vous répétez vos questions d'une année sur l'autre, à un moment, vous rentrez en résistance et même en révolte. Et d'autant plus que ce sont des âges, l'adolescence, où on a un caractère, on a besoin de marquer son caractère et c'est ce qui apparaît dans le roman.
Alors, ce premier ramadan, parce que les ramadans, donc il y en a plusieurs, hein, c'est toute une série de ramadans, c'est le ramadan 1983. Alors, Ali a quel âge à ce moment-là?
Ali, il a 6 ans.
Il a 6 ans.
Il a 6 ans.
Et il attend le ramadan, alors quand même avec une certaine fébrilité, même si le mot fête, il ne le comprend pas très bien ce mot. Pour lui, il dit fête, la fête, c'est fête foraine, c'est la fête. Alors que là, c'est une fête particulière.
C'est ça, il ne comprend pas bien parce qu'en fait, il voit tous ces adultes qui s'agitent autour de lui, qui sont impatients de voir le ramadan arriver. On lui promet monts et merveilles, qu'il y aura des cadeaux, qu'il y a tout cet enthousiasme. De ces adultes autour de lui, donc il est emporté dans ce torrent d'euphorie et il se dit moi aussi je vais jeûner, et malgré en fait les réserves des parents, hein, je deviens adulte, je deviens musulman, je veux jeûner, voilà, je suis un grand, donc je jeûne, je vais essayer. Voilà. Et c'est ce qui se passe la première année. Il tente de jeûner une première journée.
Alors le pauvre, il va se faire avoir, hein, parce que il y a le copain du coin dont le père est précisément l'imam, hein, c'est bien cela,
oui, c'est ça.
qui lui tend un chocobéen 10 minutes avant la fin normalement du ramadan.
Ouais.
Et là, il est blessé là.
Oui, parce qu'en fait, le père en fait en question est imam, donc il a toute confiance en le personnage, et cet imam qui est très taquin, qui est très joueur, et voilà, quelques minutes avant la fin, avant la rupture du jeûne, il lui tend un BN, et il voit pas le piège arriver, et il croque dedans, et là c'est la grande trahison. Et en même temps, en fait, que l'imam lui tend le BN, il lui demande de réciter la shahada, l'attestation de foi, il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah et Mahomet et son prophète. Et donc, lui, il va évoluer avec ce souvenir d'attestation de foi mêlé à un piège.
Et il va très mal, évidemment, mal le vivre.
Voilà.
Alors, au début de ce ramadan 1983, il y a la question de la salive. Le pauvre, mais c'est une torture pour lui, parce que il s'empêche d'avaler sa salive. Donc, au bout d'un moment, il a la bouche absolument pleine de salive. Il sait pas quoi en faire. Il fait des mimiques. C'est terrible, cette histoire de la salive.
Mais c'est vraiment une des questions qui apparaît régulièrement quand on est un adolescent. Est-ce qu'on doit avaler sa salive ou pas?
Il se torture avec ça.
Voilà. Est-ce que, parce qu'en fait, la salive, c'est assimilée à de l'eau, et donc c'est rompre son jeûne. Et souvent, cette question, elle apparaît encore dans les échanges sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on doit cracher ou est-ce qu'on doit avaler sa salive? Et lui, il a pas de réponse à ça. Et donc, il passe son temps à cracher partout. Et puis, à un moment, il rentre en classe. Et là, il sait pas quoi faire de cette salive. Donc, il devient complètement débordé par cette salive qui occupe toute sa bouche, et puis à un moment en fait il explose et il est obligé de quitter la salle pour aller aux toilettes.
En tous les cas, cette histoire de salive et puis l'histoire du gâteau, hein, le gâteau, le fameux chocobéen, le gâteau carré, c'est en quelque sorte par ce biais-là qu'on va entrer dans sa révolte, Mehdi Azhar, cette révolte contre le ramadan, qui pour lui, il le vit comme une torture, alors que bien souvent, moi j'entends des musulmans qui me disent « Ah, j'ai hâte que ce mois arrive, il y a une sorte de ferveur collective, c'est un beau moment, c'est un moment de dépassement, c'est un moment surmoïque en quelque sorte. »
Effectivement, en fait, il y a une différente façon de vivre le ramadan. Il y a ceux qui vont vraiment vivre le mois du ramadan comme un moment intense où ils vont se rapprocher d'eux-mêmes, se rapprocher de Dieu, se rapprocher de leurs proches. Et puis il y a d'autres en fait qui n'ont pas envie de le pratiquer comme ça à ce moment-là. Et aussi à l'étranger, dans les pays musulmans, malheureusement, on vous donne pas le choix en fait. Donc à partir du moment où les choses sont imposées, vous pouvez être amené à les rejeter. Et on a des différentes façons de les rejeter. On peut entrer en révolte, décider de déjeuner dans la rue. Vous pouvez très bien aussi écrire un roman sur le sujet. Vous pouvez aussi attaquer l'État en justice. En fait, on a différentes façons de s'y prendre. Et effectivement. C'est le fait que ce soit imposé qui est problématique.
La pendule est un élément fondamental dans ce mois du ramadan. Vous dites, voilà, elle faisait vraiment partie de la famille pendant le ramadan. On la détestait et on l'adorait, avec son petit bruit mécanique qui battait seconde après seconde. C'est tout le temps le compte à rebours pendant le ramadan. Et bientôt, j'allais franchir la ligne d'arrivée. Et ça allait être la première fois que je remporterais quelque chose dans ma vie. Et ça m'a motivée vachement. Alors ça, c'est tout début, ça. Hein,
oui, oui.
Mais après, ça va très nettement changer. Hein, plus tard, c'est le ramadan de 1985. pourquoi ça existe le ramadan. Rien que pour ça, je voulais devenir français, me faire adopter et aller vivre dans une famille d'accueil. Là, vous n'allez pas que le dos de la cuillère, là. Enfin, c'est votre Ali qui parle,
bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais souvent, les adolescents, ils s'emportent. Hein. Ils peuvent avoir des propos très durs, excessifs. Ouais. Sur le moment, ils le pensent. Et avec le recul, ils sont quand même beaucoup plus...
Ils en sourient.
Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça.
Ils en sourient. Le ramadan, il y a des jours où ça nous tapait sur le système. Personne ne se plaignait ouvertement, mais ça commençait à nous peser sérieusement, ce jeûne. Alors, vous pensez qu'il y a... une forme de double discours par rapport au ramadan, Mediazar.
En fait, il y a une pression communautaire qui est très importante, qui vous empêche de pendant tout ce mois-là, par exemple, d'allumer une cigarette dans l'espace public, de vous arrêter au café pour prendre une boisson, de vous promener main dans la main avec votre petite amie, parce que vous êtes tenu de vous conformer au message divin. Et c'est toute la difficulté, c'est tout le problème, hein, c'est aussi ce que vient contester ce livre. Et comme je le disais, à partir du moment où les choses sont imposées, sans explication, sans réponse aux questions, on peut ne pas adhérer. On peut ne pas adhérer.
Je continue quelques lignes encore, parce que le ramadan, effectivement, c'est pour se rapprocher aussi de ceux qui n'ont pas. Et vous dites dans la voix d'Ali, mais c'est juste qu'on est déjà pauvres, alors pourquoi nous ?
Exactement. En fait, il a le sentiment, en fait, de beaucoup se priver déjà, en fait, tout au long de l'année.
Ils sont pas bien riches, les parents.
Voilà, hein. Pas bien riches. Alors, ils ont à manger. Hein. Ils peuvent subvenir aux besoins vitaux, mais en même temps, il fait horriblement froid dans cette maison. Ils partent pas souvent en vacances.
Pas en vacances du tout. Une journée l'été en voiture.
Une journée l'été, et puis tous les 2-3 ans, les vacances au pays. Donc, ça limite un peu les possibilités. Et puis, il faut se priver aussi, même dans les offres pour manger. En fait, bon, c'est toujours les 2-3 mêmes tagines en boucle tout au long de l'année.
Et c'est pas la nourriture de qualité.
C'est ça. C'est pas la nourriture de qualité. Et puis, en fait, il se rend compte qu'autour de lui, c'est pas si beau que ça. Il aimerait d'autres choses. Donc, voilà, il se plaît pas. Il se plaît pas dans cette. Mais ce qui est vraiment le plus difficile pour lui, en fait, c'est que les choses ne sont pas cohérentes. Quand il pose des questions, il n'a pas des réponses qui tiennent la route. Et c'est ça, en fait, qui le décourage. De suivre l'exemple de ses parents.
Pas de réponse de son père, par exemple, qui manifestement est un homme qui est assez sombre, qui parle peu. Vous le décrivez comme un père qui regarde dans le vide quand il ne regarde pas la télévision.
C'est ça, c'est un père qui est épuisé par le travail à l'usine, qui a épousé finalement une dame parce qu'il fallait bien que faire plaisir aux parents. Peut-être qu'il aurait préféré une autre femme qui est à moitié lui-même convaincu par la religion et voilà, donc il se retrouve un peu comme ça à vivre une vie qui lui correspond pas tellement.
Ouais. Une vie dont il ne rêvait pas, en fait.
Exactement.
Dont il ne rêvait pas. Revenons sur cet imam. Quand vous parlez de questions que se pose Ali et qu'il ne trouve pas de réponse à ces questions, c'est quand même ce qui s'est passé dans sa relation avec cet imam, qui dans le fond, bon, on lui fait réciter effectivement la shahada, mais au-delà de réciter, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de débat.
Exactement. En fait, c'est toujours de façon ascendante. C'est de l'imam au jeune Ali, et puis ça s'arrête là. Et puis on lui demande de réciter des paroles qu'il ne comprend pas, dans une langue qu'il ne comprend pas, qui est pas la sienne, puisque lui, en fait, il est marocain berbère. À la maison, on parle berbère. Et puis de toute façon, en fait, la langue du Coran, c'est pas la langue de la rue. C'est une langue qui est plus enseignée à l'université, que finalement peu de gens maîtrisent. Et donc c'est tellement loin de son quotidien. Et y a un décalage qui est monstre. Et qui le frustre, et dans lequel il ne se reconnaît pas.
Cette pression communautaire, elle apparaît dans votre roman, Mediazar, à l'école, lorsqu'il y a effectivement ce garçon qui est un peu le gendarme du ramadan, qui va coincer Ali quand il voit Ali qui n'en peut plus. Hein. Il y a les odeurs de poulet, de frites, Ali tient plus aux odeurs de la cuisine, de la cantine scolaire, et il voit Ali qui... bon, on se dirige vers la queue pour aller à la cantine. Et là, il y a un véritable rôle, effectivement, de gendarme, hein, du ramadan que tient ce garçon.
Exactement, c'est Jamel, je pense, qui s'appelle dans
Jamel,
le personnage.
Jamel, absolument, c'est Jamel.
Voilà, qui est le gardien des traditions.
Ouais.
Voilà, donc lui, il veut qu'on se conforme aux éducations qu'il a reçues, que tout le monde soit pareil et que ça ne déborde pas. Et voilà, donc il voit ce Ali qui, pour lui, est un horrible personnage, traître, un punk, et il veut surtout le remettre dans le droit chemin, en fait. Et donc... Et ça l'effraie, Ali, de voir cette autorité.
Ah oui, la lettre rouille, très clairement.
Oui,
hein.
Clairement, oui. Et donc... Bon, l'auteur après tourne cela en dérision, mais je pense que ça c'est assez vrai. Je le vois aujourd'hui, maintenant que je suis adulte et quand j'ai des discussions avec des personnes à propos justement de mon rapport à la religion qui est sûrement très différent des leurs, ça peut très vite tourner au vinaigre. Hein. Les gens s'emportent, les débats sont sensibles. Il faut faire attention à chaque mot. Et ça, c'est assez nouveau dans les années 90. C'était beaucoup plus détendu. Là, en fait, on sent que les gens sont à fleur de peau et qu'il faut être très prudent. Et ça, c'est dommage.
Quelle est votre explication, Mehdi Azar ?
Mais en fait, c'est un ensemble de choses. C'est un contexte géopolitique qui lui est tendu. Ce sont des images médiatiques qui sont agressives. Quand on voit des images de guerre à l'autre bout de la planète ou des attentats près de chez nous. Donc, eux, c'est assez facile d'associer, en fait, son propre parcours avec ces images qui tournent en boucle. Et puis, c'est toujours l'histoire de eux et nous. Et donc, on aurait tendance à se placer dans un camp ou dans l'autre, au lieu de chercher la nuance. Et on a cette chance d'avoir ces deux identités et de pouvoir aller d'une à l'autre, ou de vivre les deux, tout simplement, ensemble. Mais ça demande peut-être un recul qu'on n'a pas toujours, ou qu'on ne peut pas toujours se permettre d'avoir.
Ce livre se termine par un dernier ramadan, mais là, c'est un ramadan particulier. Il se déroule chez vos parents. Enfin, en tous les cas, il se déroule chez les parents d'Ali. Les parents d'Ali habitent désormais en banlieue parisienne, voilà. Et là, c'est un ramadan, je dirais, un peu, pas de rupture, mais enfin, on sent bien que deux cultures, finalement, qui ne se parlent plus tellement, hein, celle d'Ali, qui est devenu un adulte, et puis celle de ses parents.
Exactement, il y a un fossé. Voilà, c'est un fossé qui était prévisible. C'est un fossé, finalement, qui est trop grand pour continuer à communiquer. Alors on se continue à se rendre visite parce qu'on s'aime et parce qu'en fait on a envie de se voir, et en même temps les discussions sont très pauvres parce qu'on peut pas échanger, parce qu'on peut pas parler de politique, parce qu'on peut pas parler de religion, parce qu'on peut pas parler de sexualité, parce que il y a tellement de choses finalement sur lesquelles il va manquer des nuances, que on va juste passer son temps à se regarder dans le blanc des yeux, puis à se faire des bisous, parce qu'on se fait des bisous, hein, dans ses familles, donc on s'aime, hein. En fait, le fait d'avoir des peu d'échanges, ça ne nous empêche pas de nous aimer,
bien sûr,
mais en même temps ça peut être très ennuyeux. Très ennuyeux. Et puis quand il va falloir expliquer pourquoi est-ce qu'on jeûne pas, là, en fait, on va tomber dans une discussion de sourds. Et c'est un peu ce qui se passe dans ce dernier ramadan.
Merci, Mehdi Azar. Donc, je rappelle le titre de votre livre, un titre tout simple, Ramadan, au pluriel, et c'est publié aux éditions Ligne de Vie. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Romain Dubrac vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.